Alors, bienvenue à ce podcast de Mac Québec, l'émission du 5 février 2010. Et pour faire changement, on n'est pas au Café Lézard, on est à l'Atomic Café.
Et nous ne sommes pas le 5 février 2010 non plus.
Non, c'est vrai. Donc, on va recommencer. Moi, j'étais trop en train de lire les notes de l'émission. Donc, bienvenue à ce podcast de Mac Québec, l'émission du 12 février 2010, en direct de l'Atomic Café. On a fait changement plutôt qu'au Café Lézard pour différentes raisons. Et puis,
La principale, c'est pour se retrouver tous les trois.
Oui, oui.
C'est
une bonne raison. Mais aussi parce que, bon, le Café Lézard, c'est plus problématique. Le vendredi après-midi, c'est plein, tout ça. Donc, voilà. Mac Québec, c'est quoi? C'est un podcast bimensuel. Puis on traite des nouvelles, des rumeurs entourant Apple et sa compétition. Et on essaye aussi de parler d'expérience utilisateur, de notre expérience personnelle des produits Mac.
Des sujets qui nous intéressent même au-delà, sur le web, la techno. On en a un, je pense, qui va être intéressant. Je pense à un truc qui fait bzzz. Donc, et nous sommes avec Sylvain Grandmaison, avec moi-même, Laurent Maisonnave. Vous pouvez me joindre sur thelaurent.com, zlaurent.com. Je vous parlerai de vidéos Internet et de marketing des médias sociaux.
Oui, et moi-même, on peut me retrouver sur québecbalado.com, qui est un autre podcast, ou sur phono.ca, et je dois dire que j'ai pris un long break, une longue pause sur phono.ca, donc elle
est bien occupée.
Oui, c'est ça. Et M. Laurent Lassalle.
Oui, je suis la majorité silencieuse. Mon nom, Laurent Lassalle. Vous pouvez me retrouver sur le web, mesparolesenvolent.com ou ma14.com.
Et oui. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet, justement avec nos sujets. Donc, One Week App, un buzz pour Apple. Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est une personne qui a ouvert un blog et qui a fait un gros buzz. Parce qu'il dit, il met comme challenge, comme défi, je fais une application en une semaine et je l'explique par A plus B comment je fais ça. Et il explique ça dans son blog.
Ouais, mais c'est pas une application...
Une application
Hello
iPhone,
World ou
une application iPhone qui part de zéro et il explique par A plus B comment il fait son application.
Donc, tout le processus.
Les questions qu'il y avait un peu, c'est on se demandait si Apple n'était pas derrière ce buzz parce que bon, ça fait la promotion des applications iPhone pour dire que c'est tellement facile qu'en une semaine, on peut développer une application iPhone.
Oh, mais en même temps, Apple justement pas besoin d'être derrière des initiatives comme ça. Les Mac fans sont tellement fidèles.
C'est ça qui est formidable. Microsoft aimerait bien la même chose.
Oui, mais en même temps, bon, ils font pas nécessairement pour.
Non, c'est vrai.
Juste un petit sujet, des nouveaux produits iPhone pour Morphe. Pour ceux qui connaissent pas Morphe, ils font des battery packs qu'on appelle. En fait, c'est des boîtiers pour votre iPhone, mais qui intègrent une batterie à l'intérieur. Donc, votre iPhone reste chargé plus longtemps. Ils ont lancé des nouveaux produits. Le premier, ça s'appelle Juice Pack TV. Donc, c'est une batterie, en même temps, récepteur télé antenne. Donc, de la vraie télé avec un récepteur analogue et qu'on peut regarder sur le iPhone.
C'est de la télé numérique?
Non, je ne sais pas.
C'est télé analogique ou numérique?
Je n'ai pas regardé tous les détails, mais...
Il y a un tuner dedans, un tuner télé, non?
Oui, il y a un tuner télé. Donc, il y a une antenne télé à l'intérieur
de ça. Tu n'es pas obligé de te trimballer avec ton antenne râteau derrière.
Non, c'est ça. Donc, c'est tout petit. En même temps, ça fait un peu le même truc que leur autre battery pack. Ça fait un boîtier en même temps. Ça allonge la durée de vie. Donc, si on ne se sert pas de la télé, la durée de vie, la durée d'utilisation est plus longue.
Ah, c'est une bonne idée de coupler les batteries, parce que c'est vrai que c'est tellement pratique d'avoir une batterie de rechange avec son iPhone. Là.
Oui, surtout beaucoup quand, de choses, mais... quand on fait du tethering,
ça
suce beaucoup, oui, effectivement.
Le problème, c'est que je me rappelle, j'avais acheté ça. Moi, je fais beaucoup de quick vidéos pour filmer des conférences. Je n'ai pas pensé que, étant donné que ça se branche en dessous, ça bloquait le micro.
Ah!
Oui. Donc, j'ai dû retourner. Moi,
et comme avec Kik, on ne peut pas rajouter un micro par-dessus. D'ailleurs, tu dois me rendre mon micro.
Oui, effectivement, il est encore chez nous.
Mais je pense que ça dépasse du sujet. L'autre truc qu'ils ont lancé, mais qui n'est pas encore vendu en ce moment, s'appelle Marketplace. Donc, ça s'en vient très bientôt. C'est un lecteur de cartes optiques qu'on passe. On peut passer des cartes de crédit. Donc, c'est une solution de paiement mobile. Pour carte de crédit. Donc, si on est un vendeur, par exemple, on a un kiosque et on veut faire payer les gens, juste avec son iPhone, ce lecteur-là et l'application, clic. Ben,
c'est justement à la conférence Le Web, là, en décembre dernier, en France. Et je me souviens qu'il y a un entrepreneur qui avait présenté une solution comme ça.
On mettait sa carte de crédit.
Ouais.
Je suis pas mal sûr, parce qu'il y a une initiative avec, dans laquelle Kevin Rose a mis de l'argent, puis il me semble que c'était pas Mofi,
c'était
une autre
compagnie. Pas celui-là.
Ouais. Donc, ça s'en vient.
Mais vous verrez mettre votre carte de crédit avec un lecteur sur un iPhone?
Ben, pourquoi
vous
pas?
Auriez confiance? Parce que, après tout, c'est une question de confiance, pas une question de technique.
Effectivement.
Oui, c'est sûr. Parce que là, à ce moment-là, tu peux avoir différentes applications autres que le paiement. Et tu peux avoir des applications qui vont justement siphonner l'information de la carte de crédit. T'sais. Je sais pas.
Ah, mais en tout cas, la solution... Problème, c'est un commerce. Ouais. Un commerçant. Il y a des commerçants où tu peux te faire voler ton numéro de carte IP, ta carte bancaire, puis ils clonent ta carte, puis ça m'est déjà arrivé une fois. Donc, c'est tout le temps une question de confiance, peu importe le
mode. Mais c'est le problème de la bande magnétique.
Ouais.
Puis en 2010...
En tout cas, le produit est intéressant, il est à venir. Celui-là, il n'y a pas beaucoup de détails encore. On le voit visuellement, mais on n'a pas les détails du produit puis de l'application.
Excellent.
Donc voilà. Google Chrome Mac...
Oui, une nouvelle. Ben, vous savez, moi, je suis passionné là, depuis la version bêta de Google Chrome.
Oui, bientôt, on va appeler ça Google Québec, si ça continue comme ça.
Oui, en
fait... Ça m'intéresse, parce que ça, la concurrence dans les navigateurs Internet, on a vu quand même que ça fait du bien. Là, quand Firefox est arrivé il y a quelques années... qu'il a réveillé Internet Explorer. Avec Chrome, c'est la même chose. On a un navigateur qui est rapide, qui plante un peu. Mais là, enfin, on a égalité avec le monde de Windows et Linux, qui, eux, avaient eu Google Chrome avant nous, full option. Et arrive la version 5 de Google Chrome pour Mac, qui cette fois-ci reconnaît les extensions, c'est-à-dire les petits plugins, par exemple pour vérifier ton compte Gmail ou pour envoyer sur Twitter. Donc, il est full compatible au niveau des extensions. Et ensuite, il a la synchronisation des favoris. Okay. Très, très pratique. Ce que permet, entre parenthèses, Mozilla Wave sur Firefox. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé.
Non.
C'est pareil, c'est très très pratique, parce que quand on a plusieurs ordinateurs, ou même quand on veut sauvegarder ses favoris, parce qu'on met quand même pas mal d'informations, ces petites solutions sont très pratiques. L'avantage maintenant, c'est que c'est intégré directement dans les navigateurs avec Google Chrome.
Ouais. Autre sujet, Aperture 3 de chez Apple, donc ils ont lancé leur nouvelle version de leur logiciel professionnel de gestion de banque de photos. Donc, ils ont ajouté la fonction visage, de reconnaissance de visage comme il y a dans iPhoto depuis un bout de temps.
Ouais, qui est bien pratique.
Le géotagging aussi, ils l'ont ajouté.
Picasa aussi, je crois que c'est mis.
Oui, il y en a plusieurs
qui sont mis à ces solutions. Ouais. C'est vrai que c'est pratique pour trier ces photos plus que par date ou par nom.
Ouais.
Se dire par endroit géographique et visage, c'est bien trouvé.
Et les autres ajouts, ben il y a des ajouts de brosse un peu similaires à Photoshop, où est-ce qu'on peut intervenir avec une brosse sur l'image, donc soit pour retoucher ou soit pour améliorer la couleur ou faire changer les paramètres de couleur dans certaines zones de l'image. Et en plus, c'est une smart brush, c'est qu'elle reconnaît les contours. Donc, s'il y a un visage puis un fond de ciel à côté, il va reconnaître que c'est le ciel bleu et il va appliquer simplement sur le ciel. C'est assez intéressant. Faut voir que
tu l'as déjà utilisé à Aperture?
Je l'ai utilisé une fois, la première version. Hein. Ouais. Puis je l'ai ouvert, puis je m'en suis servi une fois, puis ça a fini.
Photoshop.
C'est quoi déjà? Ouais. C'est pas tout à fait comme Photoshop. D'ailleurs,
non.
Adobe a sorti un équivalent.
C'est Lightroom chez Adobe.
Lightroom chez Adobe.
Ouais.
Puis
c'est vraiment, c'est pour gérer ta banque de photos.
Ouais, mais orienté photo.
Photographe. Photographe professionnel, c'est
d'accord.
Parfait.
Ouais.
Tout est backupable, tout est...
Puis en même temps, toutes les interventions que tu fais, c'est un processus non destructif. Donc, tu peux toujours revenir en arrière, revenir à l'original. Et aussi, ben, ce qu'ils ont ajouté, c'est des effets prédéfinis et justement des ajustements, des nouveaux ajustements sur la couleur de la photo que tu peux faire. Donc, s'il y a des effets prédéfinis, tu cliques, là, ça te fait un effet vieillot, un effet ci, un effet ça.
C'est très...
Ça peut me rajouter des cheveux, moi?
Non, ça pour ça...
J'ai perdu.
Oui, bon, c'est ça.
Faut que je prenne les petites pilules que tu m'as conseillées.
Oui, c'est ça. Exactement.
D'accord.
Ou ben, si tu veux faire une intervention chirurgicale.
Non, je n'irai pas jusque-là.
Vas-y.
Ce sera pour une prochaine émission.
Apple rembourse 115% du prix des Mac 27 pouces.
Des iMac 27
les
pouces.
IMac, oui.
Ben, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le iMac 27 pouces, qui est un très beau modèle, mais la dalle, là, ils ont des gros problèmes. Ils ont énormément de retours.
Oui.
Mais est-ce que c'est tous les modèles qui sont problématiques ou c'est une grande partie? Est-ce que c'est généralisé comme problème?
Ben, a priori, c'est beaucoup de modèles. Mm-hmm. Peut-être pas tous, là, mais peut-être qu'il y en a qui ne se rendent pas compte que...
Oui, c'est ça. Donc, on dit qu'Apple rembourse 115% du prix des iMac 27 pouces. Donc, il y a des problèmes. Quels sont les problèmes? Et est-ce que c'est juste ce modèle-là, le 27 pouces?
Oui, c'est juste le modèle 27 pouces du iMac qui est super beau. Le principal problème, c'est du scintillement. Donc, on a des images qui scintillent. Donc, quand on n'est pas dans Star Wars, ça peut être un peu gênant. Et a priori, il y a beaucoup de iMac 27 pouces qui sont touchés. Apple vient d'envoyer une mise à jour logicielle pour régler ce problème. Mais malgré tout, on a toujours un jaunissement de l'image.
Okay.
Donc, certains se sont fait rembourser. Là, c'est une information qui vient d'Europe. Ils se sont fait rembourser leur iMac 27 pouces. Et ils ont eu finalement 200€ de plus qu'ils l'avaient acheté. Donc, ce qui revenait à 115%.
OK. Intéressant. Microsoft Office 2011...
Yes! Oui. Microsoft Office arrive pour... vous savez qu'il y a toujours un décalage entre la version Windows et Mac. Bon, c'est histoire de faire un peu de pub entre les deux, je pense. C'est histoire d'allonger la vie. Donc, ils arrivent avec le classique Word, Excel, PowerPoint et le retour du Visual Basic. Je ne sais pas si vous l'utilisiez.
Ben, jamais, non. Mais je sais c'est quoi.
Tu parles à des designers, là. Penses-tu qu'on...
Non, mais même moi, j'ai jamais utilisé ça.
Mais ce qui me surprend, ce qui a toujours été la formule pour Office, c'est qu'il y a deux équipes différentes qui travaillent sur la version Mac et la version Windows, puis c'est volontairement qu'elles ne se ressemblent pas.
Eh bien, justement, sur cette version-là, ils ont travaillé au moins
intégrer,
à harmoniser
choses,
les documents. Parce que quand tu fais une mise en page sur un document Word Mac et que tu l'envoies à un Word PC... T'as la mise en page qui chie, c'est pas normal.
C'est pas juste les polices, là. C'est...
Non,
souvent,
c'est les mises en page.
Donc ça,
c'est gênant.
Fondamental,
Entourage, vous vous souvenez d'Entourage?
Oui.
Qui était la version Outlook pour Mac. Ben, ça s'appelle Outlook maintenant. Donc, ce qui est un peu logique.
Liaisage de moins.
Oui, mais c'est toujours dans la démarche que c'est un Office multiplateforme, mieux intégré.
Et puis aussi, au niveau de l'interface, il y a j'ai lu autant de l'interface que certaines fonctions qui était dans la version 2007 pour PC, qui vont être intégrés. Donc, ça va être plus uniforme avec la version PC en ce moment.
Oui, ça aidera ceux qui switchent de PC à Mac, justement, trop être perdu.
Oui, c'est ça. C'est
quelque chose de très classique, c'est qu'ils améliorent les outils collaboratifs dans les nuages, là, en cloud et en temps réel, un peu ce que fait Google avec, avec Google Docs, nous, comme on travaille. Mm-hmm. Et donc, SkyDrive pour la partie sauvegarde des données en nuage. Donc ça, c'est la grosse tendance, de toute façon, de toutes les applications, de tous les logiciels, c'est d'être collaboratif en temps réel et dans les nuages.
Et puis ceux qui regardent pas de ce côté-là vont avoir des petits problèmes bientôt. Opera Mini sur iPhone.
Ah, alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content d'utiliser juste Safari? Ou est-ce que vous dites, s'il y avait Firefox ou Opera qui était dessus, je l'utiliserais peut-être?
Je ne sais pas. Je n'ai pas de problème avec Safari. Je suis revenu d'ailleurs avec Safari même sur l'ordinateur parce que Google Chrome, ça... c'était pas assez stable, puis il prenait beaucoup de mémoire vive par des moments totalement absurdes, donc je me suis tanné. Puis Firefox, c'est le même problème, c'est que j'ai beaucoup d'extensions. Je l'utilise pour le développement, mais souvent, j'ai besoin de quelque chose de rapide, donc je me...
Ah, mais Safari est stable parce qu'il n'y a pas d'extension.
Oui. c'est un bon truc, c'est pas mauvais.
Oui.
Mais pour Opera Mini, Opera a annoncé qu'ils allaient... cette semaine mettre sur l'Apple Store Opera, du moins ils allaient proposer sur l'Apple Store Opera Mini pour iPhone. Mm-hmm. Et ce qu'ils attendent en fin de compte, c'est
ça refuser.
Mais c'est de voir si Apple va refuser, parce que Apple a déjà été au tribunal parce qu'ils avaient refusé, vous savez, c'était Google Voice, je crois, le logiciel Google Voice.
Mais ça s'est pas résolu, ça.
Et oui, mais ils ont. C'est le premier jugement, je crois qu'ils ont, ils ont eu tort.
Ah
oui? Oui, c'est toujours dans les avocats, mais c'est toujours la même chose. Et puis c'est ce qu'on reprochait à Windows, justement, d'installer prédéfini Windows Media, Internet Explorer, tout ça. À la rigueur, sur Windows, on pouvait installer autre chose. Que là, sur son iPhone, qu'Apple ne veuille pas qu'on installe des logiciels concurrents aux siens.
C'est un terrain glissant.
Ouais, c'est assez dangereux, surtout quand on sait qu'ils ont une part de marché quand même grandissante. Mm-hmm. Moi, à chaque fois, je le dis sur l'internet mobile en sans fil, là, en Wi-Fi, le iPhone OS a quand même 95% de part de marché. Donc, c'est une position dominante. Et si on relie ça aux 100 millions de dollars que Google donne à Apple pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Safari? On comprend l'enjeu qu'il y a derrière tout ça.
Sauf que je ne sais pas si tu as lu que ces chiffres-là, c'est des allégations qu'il y aurait, que ce serait 100 millions. En fait, ils disent que ça n'a jamais été confirmé, que c'était ce montant-là.
C'est un fait, mais je vais switcher avec le sujet parce que je l'ai noté dans les rumeurs.
Beaucoup d'argent. Ouais.
C'est un fait que tous les navigateurs, de toute façon, avec le Google qu'on a en haut à droite, quand vous utilisez cette barre-là plutôt que google.com, dans le lien, c'est clairement indiqué quel fureteur a calé la recherche. Puis c'est clair là, qu'il y a un échange financier derrière ça.
Oui, c'est sûr.
Je vous ai déjà parlé de Flock. Vous savez, le Firefox social, eux, ils font leur argent clairement là-dessus, hein, par ils ont un pourcentage sur les recherches qui sont faites par Google, Bing ou d'autres.
C'est ça, donc on peut comprendre un peu l'intérêt, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on le respecte, mais l'intérêt qu'Apple a à conserver son fureteur par défaut, c'est justement d'obtenir cet argent-là. Puis,
Moi, par exemple, ça, c'est le genre de petites choses qui m'agacent chez Apple. J'étais content, par exemple, quand Microsoft se faisait taper dessus à cause d'Internet Explorer et Windows Media, et je ne comprends pas qu'Apple fasse moins. Je comprends pourquoi ils le font, mais je ne l'accepte pas en tant que consommateur.
On va passer au sujet suivant. Le sujet.
Le sujet.
Le sujet. Le iPad.
C'est quoi
cette affaire-là? J'ai jamais entendu parler de ça. Non, c'est ça qui a été annoncé le lendemain du précédent podcast.
Exactement.
On avait lu des rumeurs au fil du temps. On avait fait des prédictions sur qu'est-ce qu'il allait avoir dedans. Est-ce que vous l'aimez sans l'avoir vu, l'avoir touché?
On a quand même une très bonne idée.
Intéressant comme produit?
Ouais. Déjà, par rapport à nos prédictions, est-ce qu'on était complètement à côté de la ramasse? Là?
Je me souviens pas. je me souviens que Laurent avait fait des bonnes prédictions. Il me semble qu'en gros, tu étais dessus.
Il y a une seule chose où j'étais vraiment à côté, c'était sur le prix. Puis je pense qu'il a étonné tout le monde. Moi, je m'attendais à quelque chose à minimum 700$.
Il y a ça d'un côté. Je pense au niveau des features, le truc qui m'a surpris le plus qu'il n'y ait pas, c'est la caméra.
Pas de caméra. Moi, j'en revenais. J'étais fâché. Marc a acheté le nom de domaine, pas de caméra.com, ça redirige à apple.com/iPad. On est trop frustrés, ça n'a trop aucun sens. Moi, ça me dépasse.
Mais tu vois le choix entre un iPad avec OS iPhone ou OS Mac? Il y avait eu un débat en ligne également, on n'était pas tout à fait d'accord. Mais je pense que après la présentation, je pense que ça fait vraiment quelque chose de logique qu'il ait choisi l'OS iPhone, parce qu'il y a toutes les applications derrière.
C'est sûr.
En même temps.
Puis, une question d'avoir une architecture aussi un peu plus fermée qui nous rend prisonniers du store. Fait que c'est sûr qu'au niveau modèle financier, ils vont être gagnants. Là, c'est clair.
C'est ça. En même temps, tu ne peux pas rouler plusieurs applications.
Non.
Pourtant, tu as un appareil qui pourrait te le permettre.
iPhone OS 4. Ça, c'est ma prédiction.
Okay. Toi, tu penses que c'est software, non pas hardware?
Ah oui, totalement, oui. Parce qu'un iPhone jailbreaké peut gérer plusieurs applications en même temps.
Ah, je sais.
Donc, le problème est bien le logiciel.
L'autre truc qui m'a surpris, c'est peut-être... en même temps, c'est qu'il n'y ait pas de port USB.
Non, ça, c'est normal.
Ça, c'est Apple.
C'est normal, oui et non. Parce que si tu pouvais t'en servir justement comme un photographe qui s'en sert comme... backup device.
Non.
C'est sûr qu'il va y avoir des petits trucs qu'on va pouvoir ajouter pour pouvoir le faire comme il y en a sur le iPhone.
Tu, mais... faut penser que l'iPad est un complément à l'ordinateur, donc oui, tu as besoin d'un ordinateur pour l'utiliser. Si, si tu commences à avoir des ports à côté, puis tu peux l'utiliser sans ordinateur.
Mais vous savez quel est le seul téléphone qui n'a pas de prise mini USB?
Ben, ça doit être le iPhone.
Ouais, tous les autres se sont entendus justement pour que la recharge se fasse avec une prise mini USB.
Ouais.
Sauf Apple.
Ouais. C'est sûr que le connecteur à l'autre bout, il est quand même en USB.
Ouais, je sais, mais en même temps, c'est le même connecteur qu'ils ont depuis le iPod. Le tout premier iPod, c'est exactement le même connecteur. Ils ont... Fait qu'au moins, ils sont assurés que les périphériques aient été faites pour ce connecteur-là.
C'est exactement le même depuis le début?
Oui, oui, tout à fait. Ça se branche. Sauf qu'au début, c'était uniquement en FireWire.
Mais tu avais quand même c'est le même connecteur qui se branchait sur l'appareil.
Oui.
Donc, bon, mais donc l'ultime, voilà. L'ultime question, c'est est-ce que vous allez vous acheter un iPad? Si oui, quel modèle?
Alors, moi, j'en ai discuté avec Isabelle.
Il a demandé la permission.
C'est plus... elle est plutôt l'excuse pour en acheter parce que j'en ai pas besoin.
Okay.
Mais là, quand j'ai vu le prix, je me suis dit, tiens, ce qui est intéressant, c'est le clavier, le dock avec clavier qu'on peut acheter.
Mm-hmm.
Et là, on a quand même quelque chose de très pratique. Je me dis, ça fait un Mac pas cher qui fait quand même l'essentiel de l'activité qu'une personne lambda utilise, c'est-à-dire Internet, email, même iWorks. C'était étonnant.
Ça, j'étais très content.
Mais en même temps, ça a plein de sens.
Mm-hmm.
Oui, c'était dans les rumeurs.
Une fois que c'est présenté, oui, mais.
Oh, ouais, mais c'était dans les rumeurs, puis je trouve que ça a plein de sens.
C'est vrai, tu l'avais noté, toi, je me souviens. Un bon point. Mais donc, pour Isabelle, je pense que ça ferait un très bon produit, un rapport qualité-prix intéressant, et puis je le prendrais sans 3G. Je le prendrais juste avec le Wi-Fi.
Est-ce qu'on pourra faire du. Naviguer en Bluetooth, utiliser son iPhone pour faire du tethering sur le iPad?
Ben, la question que je me posais, c'est si on a un iPhone, est-ce que ça fait du sens d'avoir également un iPad?
Ça dépend de l'utilisation. Ouais. Comme tu dis, travailler avec iWork, puis travailler justement, faire des présentations sur Keynote, ce genre de trucs-là, travailler des documents, peut-être ça fait du sens.
Ben, parce que avoir un MacBook ou un MacBook Pro et un iPhone, on voit bien la complémentarité.
Oh, oui. Ouais.
Mais entre le iPad et le iPhone, il y a tellement de similitudes quant aux usages que...
T'as une meilleure résolution si t'avais eu la caméra au moins dessus. Je suis vraiment déprimé pour ça. Moi, je veux rien savoir de ce produit-là.
Tu sais que c'est pour sortir une nouvelle version l'année prochaine. Ouais, tu sais comment ça marche.
Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui va lancer une caméra qui va se brancher sur le dock ou quelque chose?
Oui, Apple va faire sa propre version. Ils vont appeler ça iSight. Ils vont la garder 6 mois.
iSight Mobile, tu sais. Donc, oui, voilà.
Toi, Sylvain, t'achètes ça?
Je suis pas sûr.
Pas sûr?
Pour ta femme?
Non, mais entre autres, c'est à cause qu'il n'y a pas de caméra, tu sais, aussi.
Parce que
il y a quelques trucs comme ça, mais sauf que le fait qu'il y ait iWork, c'est bien sexy.
Moi, je prétends que la raison pourquoi il n'y a pas de caméra sur l'appareil, puis moi, je pensais à une caméra qui se pointe vers l'utilisateur, non pas une caméra qui pointe à l'extérieur. C'est parce que la caméra s'en vient sur l'iPhone 4G. La caméra qui te regarde frontale, oui, c'est clair. Puis il voulait justement justifier le nouveau produit, le nouveau iPhone. Comme ça, les gens vont être déchirés. Hein, j'achète l'iPad, j'achète l'iPhone. Parce que si c'était trop semblable, il y aurait peut-être justement perdu des plumes d'un côté ou de l'autre.
Ça pourrait se défendre. Mais ça serait bien en tout cas qu'il y ait une caméra frontale dans le iPhone 4G. Ça serait génial.
Oui, puis en gardant toujours celle en arrière. Celle d'en avant sert juste comme webcam. Celle d'en arrière sert plus pour prendre des photos.
Oui.
Parce que c'est sûr qu'ils vont améliorer la résolution aussi de la caméra en arrière.
Ah oui, le 5 mégapixels, ça fait partie, je pense, des choses qui sont très prévisibles.
Ouais.
Sinon, avec l'iPad, Apple a introduit son processeur A4, qui est en fait la nouvelle coqueluche d'Apple. Qui est conçu par la compagnie semi-conducteur PA Semi qu'ils ont acheté en 2008.
Oui. Donc construit par Apple.
Oh oui.
Et ça fait très longtemps qu'ils n'avaient pas construit leur propre processeur.
Il y a certaines personnes qui prétendent que le fait que c'est une puce Apple, ça peut peut-être justifier pourquoi la durée de vie de la batterie est bonne, puis qu'ils sont encore plus près du hardware, donc ils peuvent s'assurer que tout fonctionne.
Ben, ça répond exactement à leurs besoins.
Ouais. C'est... Mais est-ce qu'ils vont se rendre jusqu'à éventuellement développer le prochain processeur pour leur Mac? Dans 5-10 ans, encore une autre transition.
Ouais.
J'espère que non, mais...
Ben, ils ont tellement gagné à prendre des puces Intel que ça serait peut-être un retour en arrière. Là.
Ouais, ben,
mais
j'ai
ça serait quand même pas surprenant avec Apple.
Oui, mais sur les Mac, là, les Mac, MacBook, c'est pas le processeur qui fait le plus la différence. C'est l'innovation qu'on a sur le clavier, sur le trackpad, c'est la coque... Ouais. C'est l'intégration logicielle. C'est pas seulement le processeur. Non, je pense que le processeur n'a pas assez d'importance pour qu'ils s'investissent autant là-dedans pour les Mac.
Moi, j'espère vraiment qu'ils vont rester, qu'ils vont laisser le développement des processeurs sur les périphériques et non pas l'ordinateur, justement pour permettre la flexibilité d'installer. On n'installe pas Windows, on préfère quand même macOS 10, mais le fait d'avoir l'option, d'avoir le choix.
Ah, ça permet à beaucoup de monde de switcher.
Mais c'est ça.
Moi, le premier.
Une autre nouvelle relative au iPad, c'est que probablement qu'il y aura une baisse de prix à 1$ de certaines émissions de télé sur le store. Un peu pour, justement, on va proposer un iPad qui offre de consommer vraiment du média, des émissions de télé, tout ça. Donc, on baisse le prix pour créer l'engouement. Donc, plusieurs émissions de télé, à place d'être quoi? C'est 2,99, 1,99. Ils vont baisser à
99 sous.
Donc, c'est assez intéressant. Puis, c'est sûr qu'on peut se demander à quand les émissions en français sur iTunes Store. Mais là, maintenant qu'on a tout.tv,
tu dis qu'on s'en fout, mais à la limite, Hulu existe et pourtant, le iTunes Store est... C'est deux éléments différents.
Ouais,
c'est comme les modèles pour consommer de la musique en stream sur le web. Il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir la copie pour pouvoir la réécouter perpétuellement.
Oui, mais tu dis ça, mais en même temps, il y a des rumeurs comme quoi Hulu est en train de préparer son passage sur l'iPad.
Oui. en HTML5.
Oui, mais ça, on en parle plus tard.
Ah, OK, c'est
oui,
ça.
Oui, mais ça fait un bon lien.
Et justement aussi, il y a Amazon qui songe à donner son Kindle pour compétitionner l'iPad. Le truc n'a pas nécessairement enlevé, le Kindle n'a pas nécessairement enlevé. En plus, c'est noir et blanc. Puis là, Apple arrive avec un objet beaucoup plus sexy, accès aussi à des livres numériques, tout ça. Et là, Amazon songe à le donner carrément.
Ils perdent déjà beaucoup d'argent avec le Kindle. Alors, le donner...
Parce qu'il était beaucoup trop cher. Le produit était...
Parce
le
prix valait... revenait très cher aussi.
Oui, je sais, mais pour ce que c'est...
par rapport au iPad,
Par rapport au iPad, c'est beaucoup trop cher.
Toujours sur Amazon, ils viennent de racheter une société spécialisée justement dans le multi-touch ou dans les écrans tactiles.
Oui, c'est vrai.
OK.
C'était aux alentours du iPad, je me souviens. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'ils veulent encore investir massivement.
Probablement que tu vas avoir un Kindle qui va ressembler beaucoup au iPad.
Oui, parce que c'est sûr que, le livre numérique... a de l'avenir en ce moment. Là.
Mais là, vous provoquez l'ultime question. Est-ce que vous êtes prête à lire un livre en entier sur un écran LCD lumineux? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont adopté le Kindle parce que justement, l'écran n'est pas... C'est pas un écran
qui projette,
lumineux, là, c'est un écran réflectif.
J'ai déjà lu un livre sur un écran d'ordinateur.
Est-ce que tu portes des lunettes aujourd'hui?
Non, je suis peut-être le seul autour de la table. Non, Sylvain, t'as...
Non, c'est beau.
T'as pas de lunettes.
Ça va. Donc, on va passer au segment rumeurs pour l'instant. Première rumeur, iPhone 4G qui s'en viendra.
Oui, avec un possible processeur A4, le même qu'il y a dans l'iPad.
Ça aurait du sens.
Ça ferait du sens. Là, parce que comme tu dis, il y a certainement de l'économie au niveau de la batterie, au niveau de l'énergie, mm-hmm. qui se fait grâce à ce processeur.
Puis aussi, développer un processeur pour deux applications différentes, c'est logique. Là.
Oui.
C'est clair que ce n'est pas juste pour l'iPad.
Surtout qu'en termes de puissance, c'est un processeur à 1 GHz. Et le processeur de l'iPhone 3GS, c'est un processeur 1 GHz, mais qui a été downgradé à 600 MHz. Justement, qui consomme moins, qui chauffe moins, il est downgradé. Donc, on est dans la même puissance entre le processeur d'iPad et le processeur d'iPhone.
Ouais. Et l'écran serait un peu plus large sur cet iPhone-là.
Oui, ça fait du sens par rapport à la concurrence. Oui. Pourquoi? Parce qu'on regarde notamment les derniers Android qui sont dans les 850 de large ou de hauteur, bon, selon quand on parle, par rapport à l'écran du iPhone qui est toujours en 720, je crois, de large. Je pense qu'il y a un confort à avoir un écran un petit peu plus large. Et puis quand on regarde le iPhone, on voit qu'il y a de la place quand même autour pour l'agrandir.
Je pense que physiquement, il va changer.
Ne pas grossir nécessairement l'appareil,
agrandir la surface visible de l'écran.
Je pense qu'il va grossir, probablement pas considérablement, là, mais la carapace va changer. Probablement pour adapter le look d'Apple, le gris en arrière, noir en avant. Ouais. Un petit peu comme l'iPad, un petit peu comme les MacBooks qu'on a devant nous.
Ah, parce que le iPad, il est en aluminium, c'est ça? Ouais. Ou en plastique?
Il est gris, en tout cas.
Ah non, mais on ne sait pas.
Non, je ne me rappelle pas.
Je pense que c'est en aluminium.
Il y a quelqu'un en ligne qui le sait, là?
Oui, peut-être.
on l'a vu gris métallique, mais c'est vrai que...
En aluminium.
Il est en aluminium.
On nous dit aluminium, oui.
C'est vrai que le iPhone aluminium fait du sens, là, alors.
Ouais. Tout est en aluminium avant, là, ils sont revenus en plastique, là, ils repartent en aluminium, c'est Apple, l'Infinite Loop.
Infinity. Oh, c'est beau ça.
Microsoft j'ai amené Office sur l'iPad, donc eux aussi, quand ils ont vu justement que Apple lançait sa suite Office sur l'iPad, ben eux, de leur côté, ils ont dit, ben il y a de l'argent à faire, il y a de l'argent à faire là. Sauf que Bill Gates aurait dit publiquement qu'il n'y avait rien sur l'iPad qui lui fasse dire qu'il aurait aimé que Microsoft l'ait fait. Tu sais?
C'est bon signe. C'est bon signe pour l'iPad.
C'est bon signe. Oui, d'habitude, c'est bon signe. Je ne sais pas si vous avez vu que il y a des conversations courriel de Microsoft qui ont été mises à jour.
J'ai lu ça.
Qui datent de 2002-2003 quand Apple a lancé son Music Store. Et là, Bill Gates, là, lui, il a été complètement sidéré.
Il a pris les culottes à terre.
Oui, il a dit, hey, on n'aurait jamais pensé à ça. Il a vu qu'il y avait un marché à faire.
À vrai dire, il avait pensé. Ce qu'il dit, c'est que tout le monde a essayé, puis les compagnies de musique ne voulaient rien savoir, puis Steve Jobs est arrivé, puis il a réussi à les convaincre.
Comment il a fait pour les convaincre?
Il ne comprend pas. Puis là, il dit, là, nous, Microsoft, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on se retourne, qu'on fasse pareil comme eux. Qu'on prouve justement aux gens qu'on est capable, nous autres aussi, de se revirer rapidement.
Faisons un meilleur produit qu'eux.
C'est sûr que les gens qui travaillent chez Microsoft, ils pensent faire un meilleur produit. Là. Tu peux pas penser que Bill Gates va dire dans un courriel, on va faire de quoi plus crappy, mais plus d'argent. Ouais.
Avez-vous déjà utilisé le Zone?
Non, j'ai pas utilisé.
Non, mais j'ai des amis qui sont fans de Zone.
Ah ouais?
Ouais, et qui attendent le Zoom Phone d'ailleurs.
Ah ouais,
qui pourrait être lancé la semaine prochaine au congrès mondial du mobile à Barcelone. Mais pour la petite histoire par rapport à Microsoft, c'est assez marrant. J'ai eu l'occasion d'aller il y a 5 ans à Seattle, à la maison mère sur le campus de Microsoft, et j'ai été visiter le musée. J'ai fait un peu un pèlerinage. Bon, j'étais très déçu parce qu'il n'était pas plus grand que l'Atomic Café. Bon. Déjà. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au premier étage, il y avait une boutique de produits Microsoft. Donc, j'ai acheté mon mug Microsoft en souvenir. Mais il y avait une partie...
Un mug, c'est une tasse, sympa. Ça.
Voilà, une tasse. Mais à l'époque, j'étais en France, donc j'appelais ça un mug. Et il y a une partie de la boutique, c'était des logiciels. Et la moitié des logiciels qui étaient là, c'était des logiciels Windows, mais pour Mac. J'étais impressionné de la part importante
c'est
que prenait...
C'est des logiciels Microsoft. Ouais.
Oui, mais...
Ouais, mais pour Mac. La moitié, c'était
des logiciels Windows, mais pour Mac.
Des logiciels Microsoft pour Mac. Et j'étais impressionné de pourquoi ça prenait autant de place. C'est parce que c'était la boutique du campus. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de personnes sur le campus Microsoft qui achetaient des logiciels pour leur Mac.
On va passer à la prochaine nouvelle. Hulu disponible sur le iPad app. À sa sortie en mars. Il faut dire que c'est une rumeur pour l'instant, mais...
Oui, on est dans la partie rumeur. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est pour ça que pourquoi pas tout.tv sur iPad. Mais finalement, ça serait quoi sur iPad? Ça serait juste la façon d'afficher les vidéos sur le site Internet, puisque iPad a un navigateur, donc qui permet de consulter des vidéos en ligne. Il permet de consulter les vidéos YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube propose les vidéos au format MP4 quand on arrive avec un iPhone ou avec un iPad. Hulu pourrait très bien faire, techniquement c'est très faisable, pourrait faire la même chose, détecter qu'on arrive avec un iPad ou un iPhone et nous proposer un format compatible.
Je trouve ça intéressant.
Utiliser le HTML5.
c'est ça, ou utiliser le HTML5. C'est ce que fait Silverlight. Ouais, Microsoft Silverlight pour être affiché sur le iPhone. Okay. Il utilise le tag vidéo du HTML5 pour pousser un format QuickTime.
Ils sont presque intelligents.
Oui,
ben, là, écoute, ils profitent de ce qu'ils peuvent faire.
C'est, mais là-dessus, c'est plus que Flash, que Adobe et Flash, parce que Adobe et Flash, ils restent sur leur format. Ils disent, ah ben non, c'est la bataille toujours.
Ils tirent la couverture de leur côté.
Apple veut pas nous accepter, machin. Mais Silverlight, je crois, finalement, Microsoft a eu plus d'ouverture.
Ouais, Apple veut pas les accepter, mais faudrait que leur produit soit plus béton.
Steve Jobs a déjà mentionné, je pense, il y a deux semaines, le jour du lancement du iPad, il a dit qu'il considérait que Adobe était paresseux avec Flash, puisque c'était la principale cause, la plupart du temps, quand un browser crash, c'est à cause de Flash.
Oui, puis avez-vous vu, justement, le patron d'Adobe a dit non, il n'y a pas de crash majeur sur Flash, puis il y a un internaute qui a envoyé, qui l'a fait, puis qui a prouvé, regarde, le crash majeur, là, puis tout ça, puis ça n'a pas pris le temps, ils l'ont corrigé en dedans là, de deux jours. Là. Mais tu sais, c'est comme, ils disent qu'il n'y a pas de crash majeur, puis l'internaute envoie, regarde, oui.
Faut se souvenir aussi que Flash, je veux dire, ça provient de Macromedia. Quand Adobe a acheté Macromedia, ce que je me demande, est-ce qu'ils ont reprogrammé le logiciel depuis, ou est-ce que c'est des vieux bugs qui traînent?
Ben, je pense qu'ils n'ont jamais reprogrammé à zéro l'application.
Ça. Peut-être qu'ils seraient dus pour ça, mais en tout cas, là, une chose est certaine, Apple a vraiment un combat contre Flash, puis ils misent beaucoup sur l'HTML5. YouTube et Vimeo, Google aussi est dans ce clan-là. Vimeo essaye justement un nouveau player en HTML5. Question de lire sur l'iPhone les vidéos de Vimeo. Donc, en tout cas, je ne sais pas comment Adobe va sortir son épingle du jeu. Mais
ils ont intérêt à vite la sortir parce que l'écran mobile, c'est l'écran qui s'impose. C'est l'écran où il y a un modèle d'affaires. Je veux dire, on va avoir de plus en plus de smartphones. Et puis, le iPhone est encore leader, là. Donc, il va bien falloir qu'il s'adapte.
Parce qu'un jour, il va y avoir plus de smartphones que d'ordinateurs.
Oui.
Ça s'en vient.
Exactement.
C'est pas déjà ça, ou presque.
Dans certains pays, il y a plus de connexions mobiles que de connexions fixes.
Ah oui, tout à fait. Même en Europe, c'est ça. Les gens accèdent plus à Internet sur mobile que par ordinateur. Donc, prochain sujet, les processeurs i5 et i7.
Les processeurs d'Apple.
Les processeurs d'Intel i5 et i7 qui sont actuellement dans les iMac. On peut les retrouver dans les iMac 27 pouces. Donc, la version haut de gamme avec le i5 est très haut de gamme avec le i7. Pour l'instant, ce sont les seuls Mac à avoir ces processeurs. Mais ce qu'on annonce dans les rumeurs, c'est que les MacBook Pro et également les tours Mac Pro pourraient bénéficier très bientôt de ces processeurs i5 et i7. Et à vrai dire, ça serait très logique. On parle pour une mise à jour ce printemps, peut-être d'ici la fin du mois de mars, à suivre. L'avantage du i7 par rapport au i5, c'est qu'il a la même puissance, on va dire, mais qu'il virtualise des processeurs, c'est-à-dire qu'il crée des processeurs, et ce qui fait qu'il chauffe moins.
Okay.
Je me suis renseigné pourquoi, parce que je regardais pour un iMac 27 pouces, je me dis tiens, ça pourrait faire un beau cadeau cette année, et j'ai vu la différence qu'il y avait un peu entre les deux, et on espère bien évidemment qu'il y a une mise à jour qui va se faire des MacBook Pro et des Mac Pro, et ça devrait toujours être par contre au niveau du prix sur les mêmes prix.
Ok. Un sujet qu'on a effleuré tout à l'heure, qui est les engins de recherche, donc Bing sur iPhone.
Oui, c'est ça. Il y avait des rumeurs. Ça fait quelques semaines que ça traîne, comme quoi que Bing pourrait devenir le moteur, j'allais dire l'engin, le moteur de recherche par défaut de Safari. Donc, Microsoft aurait plus d'argent à donner que Google, ou du moins, il y aurait une certaine négociation à faire là, surtout que Google joue de plus en plus dans les plates-bandes d'Apple avec justement l'introduction du Nexus One. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que il y avait beaucoup de rumeurs aussi qui disaient qu'Apple travaillerait sur un engin de recherche. Puis il y a des sources qui ont affirmé ça. Puis je suis d'accord avec elles, ça n'a aucun sens.
Non, là, ils sont vraiment
Apple,
beaucoup trop loin.
Seulement pour se venger de Google, vont tomber dans la recherche. Je pense que la recherche sur le web va bien. Je sais pas, problématique. D'ailleurs, tu me faisais un jeu de mots par courriel aujourd'hui. Tu as mal tapé un mot, je sais pas trop. Tu tapes ça dans Google, puis il est en mesure de comprendre ce que tu veux dire, puis tu as proposé l'orthographe adéquat. Ouais. Je veux dire, comment
demander de plus? Hein?
Ben oui, moi, quand je tape des emails en anglais, je fais tout le temps ça. Tu t'en vas le taper dans Google, puis si tu as une erreur, là, tu le vois tout de suite. C'est...
Mais c'est marrant d'ailleurs qu'on parle de notre ami Google, parce qu'il est tellement présent partout. On parlait qu'il allait se mettre comme provider Internet en très haut débit, en fibre optique.
Mm-hmm. Seulement aux États-Unis.
Vous y croyez, vous, plus largement, au-delà des États-Unis, c'est-à-dire un Google qui arriverait au Canada pour concurrencer Vidéotron?
On n'a pas encore Google Voice. Je veux dire, moi, je veux dire, on se calme.
Ça fait AOL un peu, mais...
Son argumentaire, quand même, à Google, c'est pour défendre la net neutrality, la neutralité du net.
Ça serait
dire, moi, j'arrive, je mets de la fibre optique partout et n'importe quel fournisseur d'accès peut se mettre dessus et faire ce qu'il veut.
Ouais. J'ai hâte de voir ça, si ça peut arriver, mais pour l'instant, j'aime mieux considérer que ça n'arrivera pas, comme ça, je ne vais pas déprimer dans 4 ans quand on me dit non.
Et Google qui fait du buzz, vous en pensez quoi?
Tu veux dire Google Buzz?
Google Buzz.
Moi, je le dis tout de suite, c'est de la bouette. Je comprends pas pourquoi faire comme FriendFeed. Je sais pas si la raison pourquoi FriendFeed...
Ils ont racheté FriendFeed. Hein?
Non, c'est Facebook qui a acheté FriendFeed.
Ah ouais, je me souvenais plus qui c'est qui avait racheté.
Je sais pas la raison pourquoi FriendFeed a pas levé. Est-ce que c'est parce que l'utilisabilité est pas excellente ou c'est juste parce que personne est intéressé à diffuser de cette façon-là? On est trop sur Twitter, on est trop sur Facebook.
Ben, je pense que c'est ça. On a déjà nos réseaux sur Twitter, Facebook. Et FriendFeed, ça a agrégé le tout. Mais finalement, c'était un agrégateur, mais ce n'était pas une communauté en soi. Même s'il y avait des commentaires, tout ça, ça se développait un peu. Mais les communautés, elles sont fortes sur Twitter, fortes sur Facebook ou sur YouTube, etc.
Oui, mais c'est intéressant quand tu veux aller voir toutes les publications d'une personne sur différentes plateformes.
Parce qu'on l'a essayé.
C'est pas ce qu'on recherche à tous les jours.
Est-ce que vous avez essayé Google Buzz, vous deux?
Oui.
Puis... Ben, je veux dire, c'est un email de plus que j'ai dans mon Gmail qui me
coûte. Par contre, moi, je trouve ça plus intelligent que Orkut. Orkut, c'est un Facebook, une plateforme médias sociaux type Facebook que Google avait racheté, mais qui n'a jamais levé, qui marche bien, je crois, en Amérique du Sud, mais qui n'a vraiment jamais levé. Mm-hmm. Donc là, ils s'étaient trompés. Ils se disent, cette fois-ci, on va utiliser une plateforme qu'on a déjà où il y a du monde, c'est-à-dire Gmail, parce qu'ils partent de Gmail.
Oui.
Déjà, c'est un peu plus intelligent, on va dire, au niveau de l'intégration. Mais pour le reste...
Non, mais j'y vais à l'occasion. Je regarde une fois de temps en temps, mais c'est pas...
Non, ils peuvent pas être bons partout, Google. Il faut qu'ils arrêtent. c'est vrai.
Non, mais c'est Laurent qui dit ça. C'est sûr qu'il essaie d'investir tous les réseaux. Puis à un moment donné, à force de tirer partout, tu finis par rien toucher, là, tu sais.
Bon, autant j'ai dit que c'était de la bouette, autant je suis du type wait and see. Peut-être que ça va finir par évoluer et devenir d'autres choses. Parce qu'il faut se souvenir que les services web, là, c'est jamais ceux qui les créent, qui définissent qu'est-ce qu'on en fait. Ouais. C'est toujours les utilisateurs. Ben,
les utilisateurs
commencent... Exactement.
Twitter, au début, tout le monde disait, je comprends pas à quoi ça sert.
Pourquoi je dirais je suis où? Qu'est-ce que je fais? Finalement, personne ne dit où ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Ils font juste jaser. C'est un gros SMS public. C'est pas le même.
Anyway. Passons au nouvel en vrac.
Le nouvel en vrac.
True HDR. Tu veux nous en parler?
J'ai pas relu mes notes avant l'émission, mais c'est une application, souviens bien, qui prend. Il y en a eu d'autres comme ça qui prennent plusieurs photos d'affilée pour faire une bonne photo, une bonne qualité. Je crois qu'il prend deux photos et à partir des deux photos, il calcule le gain, la lumière, la meilleure lumière, et il nous donne une belle photo à la fin.
Es-tu capable de distorsionner pour que ça soit parfaitement? Parce que j'imagine que quand tu prends deux photos, tu te tasses un peu. Puis...
J'ai lu les commentaires. Moi, je trouvais ça intéressant de pouvoir améliorer les photos du iPhone. Mm-hmm. Je n'ai pas osé l'acheter, l'application. Mais si vous avez envie de la tester, vous pouvez y aller.
OK. Testons-la. Nouvelle interface de Google sur mobile.
Ben oui, avec l'annonce de Google Google Buzz. Avec l'annonce de Google Buzz, Google a présenté, en a profité en même temps pour présenter son Google Mobile. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait une recherche maintenant dans l'iPhone, ou j'imagine que c'est la même chose sur Android, l'interface est vraiment épurée. C'est plus facile, le lettrage est plus grand. Puis il y a même, à partir de google.com, quand on fait une recherche, on a le Google Suggest qui apparaît plutôt qu'avant. Je pense qu'il fonctionnait sur l'ordinateur, mais il ne fonctionnait pas sur le mobile. Donc maintenant, c'est rendu accessible. Puis il y a le petit tab Buzz, puis il va y avoir une intégration à ce niveau-là. Mais je trouve ça vraiment intéressant que Google prenne la peine justement de faire une version mobile. Puis t'as pas besoin de taper google.com/mobile, là, ça se fait tout seul.
L'ensemble des applications de Google sont très bien intégrées au niveau mobile. Regardez, moi là, je lis les notes de l'émission sur le Google Docs avec mon iPhone.
C'est avec l'application ou avec le furteur?
Avec le furteur.
Oui.
L'application.
Parce qu'il y a une application pour les Google Docs.
Non, l'application te fait un lien vers le Safari. Et vers le truc en ligne.
Il me semble que non, mais...
L'application que j'ai, moi, de l'application Google fait ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut passer rapidement d'un service à l'autre. Et puis oui, maintenant, on a le petit logo. Alors c'est marrant parce que c'est quatre couleurs. Bon, tout le monde les prend, mais au début, moi, je trouvais que ça faisait très Windows.
C'est les couleurs de Google.
Oui, c'est les couleurs de Google. Mais,
ils sont vraiment obsédés par ces couleurs-là. Il faudrait que...
Mais je
pense à d'autres choses.
Je trouve que ça fait très Windows. Mais ils ont une très belle intégration pour dire autant le Gmail, les docs, les différents usages. Je pense que c'est eux qui sont vraiment les plus au point là-dessus.
Ce que je trouve dommage, par contre, mais en même temps, on peut se poser la question, est-ce bien utile? On ne peut pas faire de modification dans un document sur l'iPhone. Par exemple, tu es en train de lire les show
d'accord.
notes. Puis...
Ça, c'est dommage.
Ouais. Mais en même temps, ça serait
rien
peut-être un
peu parfait.
Ouais. Donc, on passe aussi à l'autre nouvelle, c'est le compte à rebours est lancé pour les 10 milliards de chansons vendues sur le iTunes Store. C'est massif.
C'est le premier vendeur incroyable. Au monde, hein, je pense.
Ouais,
que
oui,
c'est
oui,
la première,
ils ont surclassé Walmart. Walmart, qui était le plus grand détaillant de disques, et Apple les a surclassés. Puis, le gagnant va recevoir une carte de 10 000 $ pour le iTunes Store.
C'est tout?
Entre autres, je sais pas, probablement qu'ils vont leur donner.
Non, parce que c'est pas l'année dernière qu'ils avaient fait un concours dans le genre.
Non, tu veux dire, là, 6 mois. Ils en font quasiment à toutes les 6 mois. Là, je commence à trouver ça un peu lassant. C'est parce que le problème, c'est qu'ils font avec la musique, après ça, ils font avec les applications.
Oui. Ils l'avaient fait avec les applications. Je me souviens, on gagnait un ordinateur, etc.
Ouais.
Oh, ça fait toujours plaisir.
Côté mise à jour, iLife 2009.
Oui, on a le iLife 2009 qui a eu une petite mise à jour, notamment sur iPhoto, sur le navigateur multimédia d'iPhoto et sur la compatibilité des images RAW avec certains appareils photo. On a une mise à jour aussi de l'audio sur le Mac Pro. Bon, là, ça ne vous concerne pas, mais moi, j'en ai un. Et sur l'Apple TV qui passe en 3.0.2.
Oui, puis il n'y avait pas justement la mise à jour audio sur le Mac Pro réglait aussi certains problèmes de surchauffe, c'est ce que j'ai lu, ça se peut-tu?
Oui, tout à fait.
OK. Dernière petite nouvelle, l'iPad relance le développement de nouvelles applications pour l'App Store. En fait, si on regarde la courbe, c'est sûr que au niveau des développeurs qui sont intéressés à développer, c'est incroyable, l'intérêt des développeurs aurait triplé depuis l'annonce du iPad. Et si on regarde, on compare avec Android semble s'essouffler pour le développement d'applications en ce moment, mais de façon assez significative.
Mais c'est une question aussi de motivation. Quand tu sais qu'avec l'App Store, tu peux faire de l'argent tout de suite.
Oui.
Alors qu'avec Android, ça va être plus difficile.
Et en plus, tu as deux produits. Tu n'as plus simplement les téléphones. Tu as un autre produit aussi qui a une surface plus grande.
Tu as plus, tu as le iPod Touch, qui est le leader sur le iPhone OS, qui est le leader. iPod Touch, iPhone, iPad. Ça fait des millions d'appareils à travers le monde. Et pour relancer encore l'intérêt des développeurs, Apple a rajouté 500 000 $ pour un concours de développement spécialement pour iPad.
Ah, c'est intéressant. Parce qu'ils ont aussi, ils viennent de sortir la nouvelle version du Software Development Kit, le SDK de l'iPhone, mais qui est adapté pour l'iPad. Donc, c'est le SDK 3.2, la Beta 2, qui est fait pour l'iPad.
En somme, c'est la différence entre l'iPad puis l'iPhone, au niveau de la, du développement, il n'y en a aucune outre la résolution de l'écran.
Oui.
Ouais.
D'après ce qu'on a compris,
pour l'instant,
oui, c'est ça.
Mais peut-être que justement le OS 4.0 va venir changer la donne.
Ouais. Ben, c'est peut-être plus facile à gérer d'avoir un seul OS pour tous les appareils aussi. Mm-hmm.
Oui, on peut comprendre.
Ça fait du sens.
Ouais.
Oh, sinon, entre parenthèses, je viens d'installer Windows 7 sur mon MacBook Pro 15 pouces.
Et puis,
je vais vous dire que ça se fait très facilement.
Ouais.
Il faut installer ensuite Bootcamp mm-hmm. sur Windows pour qu'ils reconnaissent le trackpad, toutes les touches. Okay. Mais c'est très rapide. C'est même, je l'ai trouvé plus rapide que Windows XP que j'avais avant.
OK. Et toi, tu l'as-tu installé déjà Windows sur ton Mac?
Je l'avais fait quand je venais d'avoir le Mac. J'avais installé même la version 64 bits de Windows 7 Beta.
OK. Puis,
mais je l'ai reformaté depuis. J'avais besoin de place. Je ne l'utilise vraiment pas assez.
Puis tu fonctionnais-tu sous Bootcamp ou sur Parallèle?
Non, sous Bootcamp. Parallèle, okay. Moi, au niveau performance, là, j'ai jamais été impressionné. Là,
ben, moi, c'est pareil.
Le problème aussi avec moi, c'est que j'ai juste 2 gigs de RAM. Avec 4 gigs, probablement que ça m'aurait donné des performances plus intéressantes. Là.
Non, ben moi, j'ai pas assez. Là.
Laurent, j'ai le même problème. Moi, j'ai 4 gigs de RAM. Bon. Et avec Parallèle, franchement, ça va. Ben, XP avançait pas vite. Je l'ai pas encore essayé avec Windows 7. Mais par contre, moi, je le trouve Windows 7 en 64 bits. Je le trouve beaucoup plus rapide que Windows XP. Bon, faut dire, je l'ai remis à 9. Là.
Ouais.
Mais j'avais même pas beaucoup de choses avant. Sinon, ben voilà, c'est marrant d'avoir un Windows sur son Mac.
C'est bien, et c'est ce qui met un terme à l'émission de aujourd'hui, du 12 février. Prochain rendez-vous, vendredi 26 février.
Oui, il y a des chances. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de nous retrouver tous ensemble.
Oui, tous les trois,
parce
ça fait longtemps qu'on n'a pas eu...
Ça faisait près de trois mois qu'on ne s'était pas revus tous les trois
tous
ensemble.
Tous les trois, ouais, à une même table, c'est assez...
ça fait du bien.
Oui, ça fait du bien, puis l'Atomic Café est assez sympathique.
Moi, ouais. J'aime ça, j'aime le fait d'avoir le choix de l'endroit, puis d'essayer des nouvelles choses. Ouais. Peut-être qu'on va venir dans 2 semaines, on ne sait pas encore, on va s'en parler, mais ça augure bien.
Oui, ouais. Au niveau organisation, c'est vrai qu'on voudrait aussi augmenter un peu la qualité en vidéo, de se tirer un câble, tout ça.
Ouais, prochaine
ça,
étape
en termes
aussi,
d'organisation, c'est, si on peut se caler au même endroit pour organiser ça d'une fois sur l'autre, ça sera l'avantage. Mais bon, on s'amuse quand même bien. Est-ce qu'il y a des commentaires en ligne?
Oui,
plein de commentaires en ligne. D'ailleurs, je tiens à souligner que ça semble être un très bon moment le vendredi à 3h de l'après-midi parce qu'on a atteint le cap de personnes le maximum qu'on avait déjà atteint dans le passé.
Ah, c'est cool.
Ah, c'est assez intéressant. Oui, les vendredis après-midi, on aime ça. Donc, on vous dit à bientôt. Vous pouvez me retrouver, comme on dit toujours, allez sur québecbalado.com ou bien suivez-moi sur Twitter à S Grand Maison. Et vous, les gars?
Moi, c'est Laurent Lassalle sur Twitter.
Tu as changé, d'ailleurs.
Oui, ça m'arrive. J'ai voulu faire un ménage intense, donc j'en commence à zéro.
T'as rebooté.
Yes.
Ah, il a rebooté. Il a pas simplement changé son user. Il a fermé le compte, puis il a réouvert.
Moi, j'attendais qu'il formate aussi son blog, là. Mais bon, il n'a pas été capable.
Prochaine étape.
Il a ça, son cerveau, mais ça, bon, c'est un...
c'est peine perdue. Ouais, toi, The Laurent, on te retrouve où?
Et bon, on me retrouve sur The Laurent, à zelaurent.com.
Je me rappelle pas, t'as-tu mentionné un service de sans-fil gratuit à Montréal cette émission-ci?
Non, il l'a pas fait.
Et je n'ai pas parlé d'île sans fil. On travaille toujours là-dessus, on est toujours bénévole, on est fait. Ouais, donc, nous en voulait pas.
Et toi, tu es toujours président.
Oui, jusqu'à ce que je me fasse foutre dehors.
Tu vas te foutre toi-même dehors.
Oui, c'est ça. Ou sinon, il va y avoir un putsch.
À très bientôt.
On vous dit à très bientôt. Merci d'avoir écouté. Ciao.
Ciao, les amis.